Et dans son discours sur l'état de l'Union, c'était en fin de semaine dernière, Joe Biden qui annonçait vouloir augmenter la pression fiscale sur les milliardaires, sur les riches et aussi sur les entreprises. Bonjour Charles.
Bonjour David, bonjour tout le monde.
Charles Sanna, fondateur du site Insolentiae. Déjà un peu de politique avant de parler d'économie. Le président, on le sait, il est candidat à sa succession. Bah, il fait de la politique quand il fait cette promesse de justice sociale. On sait qu'il est distancé dans les sondages par Donald Trump et il doit être offensif, il doit être convaincant.
Voilà, offensif, convaincant. En parlant de Joe Biden, c'est compliqué. Alors Joe Biden, c'est un vieux monsieur qui est plus tout à fait très en forme. Donc effectivement, le match politique, qui est quand même à peu près le même que celui de l'élection précédente, avec exactement la même affiche, les mêmes joueurs, mais tous un petit peu plus vieux, ça fait pas rêver les Américains. Alors ça fait tellement pas rêver les Américains qu'effectivement on va avoir une polarisation sur chacune des positions traditionnelles des deux camps. Donc un positionnement beaucoup plus offensif, libéral pour les Républicains, et puis un positionnement beaucoup plus social pour séduire l'aile gauche américaine du côté des démocrates et donc de Joe Biden. Et c'est effectivement plutôt dans cette polarisation sur des positions politiques assez tranchées, assez classiques, qu'il faut comprendre et entendre les propositions de taxation, de nouvelle taxation avancées par le président américain, qui effectivement sont très 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 loin de pouvoir se concrétiser dans la réalité, dans la vraie vie, mais qui en tout cas, en termes d'effet d'annonce et d'effet de campagne, font leur rôle.
D'un point de vue économique, Charles, est-ce que, parce que Joe Biden laisse entendre, quand même, il le dit, que les deux milliardaires, enfin les plus fortunés et les entreprises ne payent pas leur juste part d'impôt. C'est le terme qu'il a employé. Est-ce que c'est vrai? Là, il parle d'un IS qui passerait de 15, impôt sur les sociétés, de 15 à 21%, et des milliardaires qui paieraient un impôt minimum de 25%. Tout ça ne concernerait pas les contribuables qui gagnent moins de 400 000 dollars par an. Est-ce qu'il y a une question de juste impôt qui se pose pour les milliardaires et pour les grandes entreprises américaines?
Alors, vous avez exactement le même sujet en Europe et en France, hein, en Europe en général, en France en particulier. Vous avez toutes les techniques d'optimisation fiscale, pas d'évasion fiscale, hein, je précise. On n'est pas dans de la fraude fiscale ou dans de l'évasion fiscale, on est dans de l'optimisation fiscale, c'est-à-dire que les chiffres d'affaires constatés par les sociétés le sont plutôt sur la filiale dans tel pays que dans tel autre, avec des refacturations internes, ce genre de choses. Donc on peut optimiser la fiscalité pour réduire un petit peu, évidemment, se faire taxer là où les impôts sont le moins douloureux pour une entreprise. On peut en partie fonctionner de la même manière pour les personnes physiques. Et puis, surtout, David, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les gens très riches, les milliardaires, ils n'ont pas de revenus. Ils ont des actifs, mais ils n'ont pas de revenus. Par exemple, prenez le cas du président de Tesla ou de Jeff Bezos d'Amazon, ben il détient des actions. Et ces actions, elles ne génèrent, comme par exemple Amazon ne donne pas, ne distribue pas de dividendes, Jeff Bezos n'a pas de revenus qu'il tirait de ses dividendes et donc il ne subit pas d'imposition sur les dividendes. Donc ça veut dire quoi les revenus d'un très riche? C'est ce que les gens souvent ne comprennent pas, et quand on parle de la taxation sur les milliardaires qui payent peu d'impôts, mais ils payent peu d'impôts parce qu'ils ont peu de revenus. Vous allez me dire, oui, mais ils vivent comme des milliardaires. Bien sûr qu'ils vivent comme des milliardaires, parce que de la même manière que y a Roger qui est commercial VRP chez France Télécom, il roule, enfin chez Orange, il roule dans une petite Clio avec marqué Orange, qu'on appelle voiture de société, où ben, le milliardaire, il va avoir sa Bentley, mais la Bentley, ça va être une Bentley d'entreprise. Elle va être détenue par une société. Il n'aura pas eu de revenus forcément pour acheter sa Bentley. Son jet privé, eh bien, il va utiliser le jet privé de la filiale de transport de jet privé de ses entreprises. Donc, il va avoir un jet privé, mais factuellement, en réalité, il ne s'est pas payé 50 millions de dollars pour acheter un jet privé à titre personnel. Et tout fonctionne comme ça sur les milliardaires ou sur les gens très très riches. Donc là, pareil, ce ne sont pas des techniques de fraude fiscale, ce sont des moyens d'optimiser fiscalement. Et donc, les milliardaires détiennent des actifs qui sont logés dans des entreprises. Et donc, ces entreprises subissent les taxations qui sont imposées aux sociétés. Et donc, eux, à titre personnel, sont effectivement, en termes de pourcentage, relativement peu taxés. Mais parce que voilà, ils utilisent un certain nombre de mécanismes, notamment en passant via les
Donc,
sociétés.
c'est utile, pardon, ou pas d'alourdir la taxation, encore une fois, je pense à l'IS, je répète, l'IS, passer de 15 à 21% et impôt plancher de 25% pour les milliardaires, ça servira à rien puisqu'ils n'ont pas de revenus, c'est ça que vous me dites? En même temps, il y a 1 000 milliardaires aujourd'hui sur le sol américain qui paieraient 8,2% d'impôts. Voilà. Et là, on se dit, effectivement, il peut y avoir un souci, quoi.
Oui, mais parce que quand je suis milliardaire, alors vous avez, quand je suis milliardaire, je peux tout à fait me verser relativement peu de revenus, utiliser, avoir peu de revenus, mais avoir beaucoup de dépenses, via les sociétés, les entreprises, la maison qui appartient à une entreprise, la voiture, le chauffeur qui est un salarié de l'entreprise, etc., etc. Donc tout ça, si vous voulez, le milliardaire, il ne le paye pas. Donc à la fin, il y a une forte minoration, des revenus et donc de la taxation. Vous avez après des niches fiscales, des aménagements, des négociations, des réinvestissements. Bref, tout ça, c'est la complexité et le fouillis des niches fiscales que vous avez le même principe que ce soit en France ou aux États-Unis ou partout dans le monde. Si vous voulez mettre un impôt minimum sur les milliardaires, bah, vous pouvez mettre un impôt minimum sur les revenus perçus, mais à ce moment-là, il faut retoucher l'ensemble de la fiscalité. Et c'est compliqué de retoucher l'ensemble de la fiscalité. C'est toujours compliqué parce que vous avez des effets de bord et des effets de bord économiques et des effets de bord juridiques qui sont très conséquents. Un effet de bord économique, c'est par exemple en France, pour faire une analogie, vous avez une loi de défiscalisation immobilière, le Pinel. Bon, bah, le jour où on arrête le Pinel, eh bien, vous avez un effondrement de la commercialisation et des investissements dans le logement parce qu'il y a moins d'avantages fiscaux. Et finalement, l'abandon de ces avantages fiscaux vont coûter plus cher en recettes fiscales qui ne seront pas obtenues par l'État sur la TVA, sur les charges sociales payées par les ouvriers, etc., etc., que ce qui était donné paradoxalement sous forme d'avantages fiscaux. Donc attention à tout ça, c'est très complexe. Les systèmes fiscaux aujourd'hui sont devenus tellement raffinés, c'est très compliqué.
Bon, en tout cas, cela représenterait cette surtaxation des riches et des entreprises, 500 milliards de dollars en 10 ans. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on sait que aujourd'hui, il y a un gros déficit budgétaire américain qui ne pose aucun problème parce qu'ils ont ce privilège exorbitant qu'on appelle le dollar. Mais l'objectif de Joe Biden, c'est de réduire de 3 000 milliards de dollars donc le déficit budgétaire. Il a raison dans le fond de ne pas laisser dériver les comptes publics.
Oui, mais en fait, non. Enfin, en réalité, que ce soit de chacun des deux côtés de l'Atlantique, le problème est le même. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui un endettement et des déficits budgétaires qui, de toute façon, sont complètement hors de contrôle. On ne sait plus faire aujourd'hui de croissance économique sans avoir un endettement plus important que la croissance réalisée. Prenez le cas en France, on va dire qu'on est à 1% de croissance avec 5% de déficit
Public.
public. Ça veut dire que, basiquement, pour faire 1 euro de croissance, on a dépensé 5 euros de dette. Voilà. Donc, quand vous en êtes rendu à ce niveau-là, et c'est exactement la même chose aux États-Unis, vous avez en réalité perdu le contrôle de votre système économique, de votre endettement. Là, aujourd'hui, l'enjeu, qu'il soit pour Joe Biden aux États-Unis ou qu'il soit pour Bruno Le Maire en France, c'est d'assurer la solvabilité à court terme du pays. Dans un contexte d'augmentation de taux d'intérêt, eh bien, vous avez un renchérissement évidemment des intérêts de la dette chaque année à payer. Et donc là, vous avez deux solutions. Vous réduisez un petit peu les dépenses ou vous trouvez de nouvelles recettes. Et donc, le plus facile, c'est toujours, toujours d'augmenter les impôts. C'est à la fois le plus facile, le plus rapide. Comme on augmente les impôts sur les riches, et c'est ce qu'avance Joe Biden, eh ben c'est plutôt populaire. Vous avez 340 millions d'Américains, 1 000 milliardaires concernés. Donc, bien évidemment, les 339 999 000 machins d'Américains seront ravis de voir les 1 000 Américains les plus riches payer les intérêts de la dette. Hormis ça, vous n'avez rien à ranger du tout.
Ouais, il y a une bizarrerie, on finit là-dessus, là, en 30 secondes, quand on voit encore les performances économique de l'oncle Sam des États-Unis. Si on met de côté la question effectivement du financement de cette bonne conjoncture par de la dette et du déficit, on le met de côté volontairement, mais si on regarde froidement les chiffres, la croissance, l'emploi, Wall Street, les salaires, tout ce qu'on veut, tout ça est robuste et pourtant les Américains ne font pas du tout crédit à Joe Biden de ses bons résultats. Comment on explique tout ça? Moi j'ai mon idée, je me dis que c'est cette inflation, alors je sais pas, sur 2 ans de 15 à 20%, qui a fait très mal aussi à la classe moyenne américaine et qui, quelque part, en veut un peu à Joe Biden.
Ben oui, la classe américaine moyenne en veut à Joe Biden, qui fait payer aux classes moyennes américaines le coût de la guerre en Ukraine et de la géopolitique américaine, de la même manière que les classes moyennes françaises subissent également et de la même manière cette inflation.
Oui, mais il y a plus de croissance, pardon Charles, il y a plus de croissance. Enfin, encore une fois, le taux de chômage aux États-Unis, il est à moins de 5%. Les salaires sont en hausse de 5% aux États-Unis. Wall Street est au plus haut. La croissance est de 2,5% en 2023. Enfin, vraiment, les performances comme ça économiques sont étincelantes.
Ou alors ça, ce sont les chiffres. Quand après, vous allez voir dans la réalité du fonctionnement de l'économie américaine et de la vie quotidienne aux États-Unis, je ne vois pas de plein emploi quand je regarde les SDF dans les rues américaines, quand je regarde la délinquance aux États-Unis, quand je regarde le nombre de prisonniers aux États-Unis. Bon. Donc attention, on n'est pas sur, on compte pas tout à fait les choses de la même manière. Les gens ne s'inscrivent pas au chômage aux États-Unis comme ils s'inscrivent en France. Vous avez 8 semaines de couverture chômage d'un côté, vous avez 18 mois de l'autre. Bon, voilà. Donc, vous avez énormément de différences. Vous avez des dizaines de millions d'Américains qui sont, des dizaines de millions hein, d'Américains qui sont sortis de la population active ces dernières années. Donc, attention, attention aux statistiques américaines. Je ne vous dis pas qu'elles sont fausses. Je dis simplement qu'elles ont des biais et des effets loupes qui peuvent donner une vision assez erronée de la complexité de la situation sociale aux États-Unis. Et vous avez un véritable déclassement de la middle class aux États-Unis. D'ailleurs, Joe Biden, et je conclurai là-dessus, vous savez, le slogan de Trump, c'était Make America Great Again. Et là, c'est Make Middle Class. Work again, hein, selon Joe Biden. Donc voilà, donc le discours de Joe Biden, il est vraiment axé effectivement sur ces classes moyennes qui souffrent terriblement aux États-Unis.
Allez, merci beaucoup. Explication et point de vue signé Charles Sanna, fondateur du site Insolentia. Et merci Charles, bonne semaine.
Merci David, merci à tous.